Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro qui vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Bien, on est à 4 dodos de la 12e guignolée du Dr Julien qui permet de donner de l'aide, des services, de l'espoir et peut-être, je le souhaite en fait, un sourire à plus de 2000 enfants et leurs familles qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, une émission que j'avais envie de dédier aux enfants, à leur santé, à leur bien-être, à leur développement, mais aussi à tous ceux, à tous les adultes qui s'impliquent auprès de ces jeunes-là. En deuxième partie d'émission, comment aider les enfants à s'exprimer tout en étant créatifs et un petit mot aussi sur l'exposition « Je suis là » avec Sandrine Zeidehoff, elle qui est musicothérapeute à la Fondation du Dr Julien. Mais d'abord, le Dr Julien en question, parce que ça fait 40 ans qu'il parle aux enfants et qu'il veille sur leur bien-être, le pédiatre social que je vous présente, même si vous connaissez peut-être à l'instant. Docteur Julien, merci d'être là. Bonjour.
Merci à vous de nous inviter.
Parler aux enfants, c'est quelque chose que vous savez faire parce que c'est dans le cadre de votre travail. Mais écrire pour eux, c'était la première fois. Vous vous êtes donné à cet exercice-là avec le livre « Parler pour les enfants ». Et ça vient d'une demande de deux sœurs, Vicky et Stacy, qui vous ont demandé de le faire pour elles, mais en fait pour tous les enfants également. Vous avez, de quelle façon vous avez pris ce défi-là?
Ben, c'est lors d'une discussion, c'est deux jeunes filles de Québec, en fait, qui font un peu partie de la famille. Et en jasant à propos d'un autre livre que j'avais publié l'an passé,
À hauteur d'enfant.
À hauteur d'enfant. Puis ils regardaient ce livre-là. Puis là, en fait, spontanément, ils me disent, écoute, pourquoi tu n'écris pas pour nous aussi? Là, tu écris pour les adultes, tu écris pour les parents, mais tu vois des enfants, puis ce serait le fun que tu écrives quelque chose pour nous. Que, je trouvais l'idée bonne. Je leur ai promis qu'un an après, il y aurait un livre. Et c'est ce livre-là qui est vraiment super bien illustré.
Oui, plus, par Philippe Béat.
Par Philippe. Et c'est vraiment un processus que j'ai beaucoup aimé, facile, parce que, oui, effectivement, je parle à beaucoup d'enfants, je vois beaucoup d'enfants, j'intègre tout ce qu'ils me disent, je m'en sers énormément de ce qu'ils me disent pour comprendre toutes sortes d'histoires. Et là, de l'écrire comme ça, à travers mon parcours pour les inspirer, je trouve que ça a été facile, agréable. C'était un livre, un des livres que j'ai trouvé le plus agréable à écrire, en fait, qui est sorti presque spontanément.
Je vous ai fait un aveu tout à l'heure, Dr Julien. Je n'avais jamais lu un livre écrit de votre main. C'était la première fois avec Parler pour les enfants. Donc, j'ai aussi appris, en même temps que tous ces enfants-là, votre parcours. Et l'une des choses qui m'a marquée, c'est cet amour-là qui est venu très, très tôt pour les enfants. Très jeune, vous saviez que vous vouliez devenir médecin.
Ah ouais, parmi les privilégiés qui n'ont pas eu à se poser toutes sortes de questions, à décider quoi faire de leur vie, c'était clair que j'allais m'occuper des enfants. En médecine, dans ce temps-là, il n'y avait pas tellement de choix. Là. La médecine s'imposait pour moi. Et donc, le parcours, c'est comment j'ai intégré la médecine, comment j'ai essayé de l'appliquer pour mieux servir les enfants. Donc, c'est vraiment toute cette histoire-là qui aboutit à 40 ans de pratique. Et avec le bonheur d'avoir développé une approche qui fait des petits, qui inspire d'autres mondes, qui pourrait, dans ma tête maintenant, changer le monde, en fait, si on pratiquait de cette façon-là.
Mais le développement de cette méthode-là, et en ce sens, votre livre est extrêmement inspirant, oui, pour les enfants, mais pour les adultes aussi, parce que Ça a été un parcours quand même avec plein d'embûches. Vous vous êtes beaucoup promené, vous êtes allé en Afrique avec votre famille, pratiquer la médecine. Vous êtes allé également dans le Nunavik en Albanie. Ça n'a pas toujours été des contextes faciles. Vous n'avez pas toujours eu l'aide nécessaire non plus pour exercer votre métier, votre pratique. De quelle façon toutes ces expériences-là ont construit le modèle de pédiatrie sociale que l'on connaît maintenant?
Ben en fait, moi je crois fermement que pour inventer quelque chose ou créer quelque chose de nouveau dans le monde, là, et toutes les personnes ont cette capacité-là fondamentalement, il faut faire des essais-erreurs, il faut subir des traumatismes là, jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire rencontrer des embûches, passer au travers, et se définir une idée de base qui va tenir à travers toutes ces embûches-là. Au début, c'est flou. Là. On se dit, ouais, c'est pas ça que j'aime. Oui. OK, il faudrait que je fasse des changements. Il faut juste les faire au bon moment. Il arrive toujours un temps où on doit choisir entre deux chemins. Toujours, toujours. Et par hasard, si on prend la bonne décision, ça nous fait énormément avancer. C'est sûr que ça laisse des personnes en plan, ça crée des incidents de changer des choses radicalement. Tu sais, quand j'ai fait le gros changement là, de sortir de l'hôpital à Lévis, je dis non, je vais faire d'autres choses, pas ça que je veux faire. J'ai pas l'impression d'être à la hauteur de ce que je veux faire, de mes rêves. Mm. Mais partir d'une job intéressante, payante, agréable, pour en découvrir une qui est plus risquée, c'est jamais simple. Mais il faut le faire. Et ça m'a toujours servi, puis ça a permis de définir ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Mais c'est un processus qu'on ne voit pas au départ. Au départ, je voulais juste faire une belle pratique à mon goût, selon mes rêves. Puis tranquillement, j'ai compris que c'est une pratique qui pourrait vraiment changer quelque chose dans le monde.
Vous parlez de rêves, Dr Julien, et à un moment donné, il y a une page qui est dédiée à votre petit-fils où vous discutez avec lui et vous lui apprenez à quel point c'est important de changer l'opposition en rêve, que ça peut être un outil pour toute sa vie. Et en même temps, moi, ça m'a beaucoup inspiré ça, de ce petit truc-là que vous véhiculez à travers le livre. Le rêve, ça fait vraiment partie de la construction de l'enfant, selon vous.
Alors, oui, de l'enfant et de la personnalité. C'est-à-dire que on est tous pleins de rêves à la naissance, là, dans le fond. Il y a tout ça. On en invente, on en dessine, on en construit. Et plus on vieillit, plus on passe à l'état mature, ou mature entre guillemets, là, mais adulte, on oublie souvent ces rêves-là à cause de toutes sortes de circonstances de vie. Et ce que nous, on essaie de faire, dans le fond, c'est de maintenir les enfants dans la recherche de leurs rêves et la réalisation de leurs rêves de vie. Mm-hmm. Et c'est pour ça que dans le questionnaire, quand je les rencontre la première fois, je veux toujours savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Même s'ils changent à chaque jour, ça ne me dérange pas parce que là, je vais miser sur ça. Puis je vais motiver les enfants autour de la réalisation d'un rêve. Puis ils changent. Après ça, on s'enligne sur l'autre rêve. Mais je veux toujours qu'ils gardent ça parce que c'est ça qui mène, dans le fond, tout notre processus de développement vers... pour faire quelque chose d'utile dans la société. Mm-hmm. Si on n'est pas créatif, si on ne poursuit pas des rêves, c'est difficile d'être créatif. On embarque dans des moules qui nous restreignent beaucoup. Mm-hmm. Donc, c'est un peu philosophique tout ça, mais en même temps, c'est très pratique parce que je crois fermement. Puis quand on a une approche comme ça avec les enfants, on peut rêver de toutes sortes d'affaires. Puis effectivement, il y a un trouble de comportement, mais qu'est-ce qui explique ce trouble de comportement-là? Comment on va... Des fois, j'ai des enfants qui ont de la peine. Au lieu de fouiller la peine, je dis, ben fais-moi donc un dessin. Là. Puis là, il se met à créer. Puis là, on va décoder dans sa production toutes sortes de phénomènes qui vont nous aider à l'aider davantage. Non, mais... Donc, il y a une espèce de processus comme ça qu'il faut suivre. Il faut accompagner les enfants. Ils ne demandent pas mieux. Et quand on le fait, on produit du succès avec les enfants. Mm. Il faut les écouter. Il faut être proche. Faut pas les mettre dans des moules, en fait.
On s'adresse à des adultes, j'imagine, en ce moment. afin de mieux écouter les enfants, afin, parce que vous le dites souvent, vous êtes toujours à l'affût des signaux qu'ils vous envoient. Comment on peut faire en tant qu'adulte?
Mais c'est sûr que ça s'apprend, c'est-à-dire qu'il y a mais il y a des prérequis. Il faut se mettre à la disposition de l'enfant, il faut se mettre à son niveau, je le répète souvent, il faut pas avoir peur de s'écraser par terre pour pouvoir être d'égal à égal. Il faut pas l'envahir trop, il faut le laisser s'exprimer, il faut le décoder dans le non-verbal, ce qui est le plus important, parce que le verbal chez l'enfant n'est pas très élaboré, puis il exprime peu d'émotions avec le verbal. Tu leur demandes, es-tu triste, en colère, c'est la même chose pour eux, donc ils ne sauront pas trop quoi répondre.
Ouais.
Mais si on s'approche d'eux, puis qu'on leur parle, nous, qu'on joue avec eux, ils vont nous exprimer un paquet de signes, des attitudes, des changements, des clins d'œil. Ce matin, j'avais une petite fille, là, puis qu'on soupçonne qu'il puisse y avoir de l'abus sexuel, puis c'est difficile de parler de ça avec un enfant de 5-6 ans. Et mais avec une espèce d'apprivoisement, de jeu, il y a des expressions qui sortaient, qui me mettaient sur la piste. Mais il faut savoir les regarder, les faire émerger aussi. Mm. Bon, ça fait partie de la technique qu'on a en pédiatrie sociale, parce qu'on travaille continuellement avec des stress toxiques, puis des peines importantes, puis des blessures importantes. Donc, il faut vraiment pouvoir décoder tout ça en dehors du langage habituel.
Mm-hmm. Il y a un défi également de pratiquer en milieu plus défavorisé, Dr Julien. Vous le dites à un moment donné dans le livre « Parler pour les enfants », en début de pratique, en compagnie d'un médecin qui avait plus d'expérience, vous pensiez que l'enfant était atteint de diabète, mais pourtant, c'était de la malnutrition. Donc, ça encore là, c'est des signaux à détecter.
Oui, puis c'est ça. Puis on a tout à apprendre. Quand je suis arrivé dans Hochelaga, j'ai rencontré cet éducateur-là. Qui m'a introduit dans le quartier, vraiment, là, dans les maisons, dans les bas-fonds, je dirais. J'ai appris à décoder des choses que je connaissais pas. T'sais, j'avais vu de la grande pauvreté, des blessures d'enfants, tout ça. Mais là, je découvrais quand même un milieu qui était en grande difficulté, où il y avait beaucoup de souffrance d'enfants. Et ben, j'avais tout à apprendre, parce que j'étais encore relativement jeune. J'ai appris des leçons comme ça de différentes personnes. Celle-là était intéressante parce que c'était un éducateur de milieu, de rue, qui me guidait dans des familles avec des grandes difficultés. Et c'est sûr que mon réflexe encore était médical. Bon, il était pâle, il transpirait, il était fatigué, donc il devait avoir le diabète. Mais non, de façon beaucoup plus basique, il ne mangeait pas parce qu'il n'avait rien à manger. Donc, ça, c'est des grandes leçons qu'il faut prendre puis qu'il faut intégrer dans notre processus.
Des leçons, vous en avez eues par des mentors, et ce, dès votre plus jeune âge, une tante que vous aimiez beaucoup, un oncle, cet éducateur-là. Maintenant, vous en êtes un. C'est un grand rôle, ça?
C'est un très beau rôle. Je me plais beaucoup dans ce rôle-là parce que on sent que ça guide. En fait, moi, ce que j'aime être, c'est un guide là, pour certaines personnes qui veulent vraiment avancer dans leur carrière, leur vie, leur façon de faire, les changements qu'ils veulent faire aussi. Et je le fais uniquement par contact clinique, c'est-à-dire qu'ils viennent en clinique avec moi, on rit, on pleure, on voit de la souffrance, puis à travers ça, il y a une espèce de guidage qui se passe. Oui, j'ai l'impression d'être un mentor pour plusieurs jeunes maintenant. À différents niveaux, et c'est un beau travail. C'est un beau travail de... Pour moi, c'est une espèce de réussite importante de pouvoir arriver à une étape où on peut guider des personnes vers leur plein potentiel, comme on dit.
Oui. Vous êtes le fondateur, également président de deux centres de pédiatrie sociale, Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges, mais il y en a 15 autres centres de pédiatrie sociale qui se développent un petit peu partout au Québec. Quand vous avez commencé à imaginer ce modèle-là, est-ce que vous pouviez espérer qu'à un moment donné, il y aurait des bébés comme ça qui poussent partout?
Non, pas au début. Au début, je voulais faire une belle pratique. Quand je suis arrivé dans Hochelaga, je vais développer ma pratique à moi, à mon goût. Et comme... en fait, ce qui a été la grande motivation, c'est il y a eu une grosse adhésion populaire, vraiment. Je l'ai construit, mais parce qu'il y a plein de monde qui sont venus construire avec moi.
Ouais.
Spontanément, puis ça m'impressionnait beaucoup. C'était on était dans un quartier en grande difficulté, puis en même temps, il y avait une espèce de tissu social extraordinaire qui dit, ben non, ça fait du sens pour nous autres, on va t'aider. Et c'est ça qui a fait que progressivement, ça a dépassé les frontières d'Hochelaga. On s'est essayé dans la Côte-des-Neiges pour voir si cette approche-là était aussi puissante avec des cultures différentes.
Ouais.
Donc, on l'a bien testé, là, ça fait 13-14 ans, puis ça marche, avec des centaines de cultures différentes. Et après ça, il est venu des gens dire, ben j'aimerais ça faire ça chez nous parce que ça brasse, c'est un milieu vulnérable, comment je peux faire? Donc, c'est là qu'est venue la notion d'entrepreneur social, en fait,
ouais.
qui dit, ben oups, cette bonne idée que j'ai eue pour moi-même, de façon égoïste, pourrait peut-être changer le monde.
Vous vous considérez comme égoïste, vous?
Oui, parce que la première motivation, c'était de servir les enfants, mais à mon goût.
Oui.
Et quand je voyais un enfant qui n'était pas bien, puis j'étais impuissant, puis je n'avais pas les outils, je ne me trouvais pas vraiment fort. Et donc, égoïstement, oui, j'ai développé quelque chose où je... Puis là, toute une équipe extraordinaire, puis des outils qui nous permettent de changer la vie d'enfant.
Là. Mm-hmm.
Donc, mais c'était égoïste, pourquoi pas?
Cet engouement-là qui s'est produit auprès de vos pères, qui ont envie d'embarquer dans ce modèle-là, est-ce que pour vous, ça témoigne que la place de la famille au Québec est à sa juste place où on a encore du travail à faire?
Alors, la famille, la communauté n'a pas sa place au Québec. C'est pour ça qu'il y a des bouleversements actuels qui sont un peu catastrophiques, qui sont souvent mal faits, mais qui font sens dans le sens qu'il en tout cas, au niveau des enfants... Il faut, puis je le dis depuis longtemps, il faut retourner les enfants dans leur milieu, dans leur communauté, avec leurs oui. parents ou la famille élargie, à qui ils appartiennent. Malheureusement, on a développé un État beaucoup trop présent dans nos vies. On a dit à l'État, fais le don. À plusieurs niveaux, là, autant en éducation qu'en santé, qu'en protection. Et on s'est comme démobilisé comme famille. Ça a été une erreur. Alors, il faut rattraper tout ça, impliquer davantage les familles élargies.
Les parents aussi.
Surtout que notre société a beaucoup évolué, puis le voisinage s'est désengagé aussi. Puis en plus, on leur a dit, bien écoutez, maintenant, vous allez signaler à l'État, là, puis occupez-vous-en pas. Chose à ne pas faire. C'est-à-dire, quand un enfant va pas bien, il faut s'en occuper, surtout l'entourage, et familial et extra-familial. Et la communauté, avant de faire appel à l'État. Donc, pour moi, c'est un principe bien important. Et j'espère que les changements actuels vont nous précipiter vers ce changement de paradigme de soins pour le bien-être des enfants à partir des communautés. Mmh. C'est la seule façon.
S'occuper des enfants, c'est notre affaire à tous.
À tous.
Également. Parler pour les enfants, le dernier livre du Dr Gilles Julien. Je rappelle que tous les profits du livre iront à la fondation du Dr Julien. Et également, je vous disais tout à l'heure en introduction qu'on est à 4 dodos de la 12e guignolée oui. du Dr Julien. Si vous avez fait le calcul, eh bien, c'est samedi le 13 décembre. Il y a plusieurs façons de donner. Vous pouvez aller à guignoler.drjulien.org là, pour connaître tous les détails. Ça peut être en ligne, ça peut être en personne. Vous pouvez texter. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y participer de 9 à 17 heures. Vous avez des attentes pour cette journée-là, Dr Julien?
Oh, oui, pour la 12e année, pour moi, c'est extrêmement important que les gens nous disent s'ils veulent qu'on continue, comment on continue, à quel niveau et comment ils vont s'impliquer avec nous. Ça, c'est très clair, c'est... Le 12e rendez-vous officiel, majeur pour tout le monde chez nous. On attend que les gens viennent nous dire si on a bien fait et si on doit continuer.
Ben, peut-être, je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi, je pense que vous faites bien. Et je m'apprête à recevoir, parce que je sais que c'est important pour vous de travailler en coopération, Dr Julien. Je m'apprête à recevoir Sandrine Zeiderhoff, qui travaille comme musicothérapeute, oui, pardon, chez vous. Donc, encore pour souligner
et
votre...
musicienne.
Et musicienne.
Oui, bien sûr.
Travailler votre... pour souligner votre beau travail, là, tous ensemble,
ouais,
du côté
il faut
des
agir
cliniques.
À tous les niveaux. Là, la musique en est particulièrement intéressant.
Merci, Dr Julien. Ça a été un plaisir de vous rencontrer.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci d'être là.
De plaisir.
C'est quand même assez chouette de travailler auprès du Dr. G. Julien au quotidien comme
plutôt
ça.
Plutôt chouette, oui.
Sandrine Zeiderhoff, donc vous êtes musicothérapeute à la Fondation du Dr. Julien. Et l'été dernier, il y a des jeunes âgés entre 5 et 6 ans qui ont eu l'occasion d'explorer le thème de l'identité. Ils ont fait des activités musicales, visuelles, expressives et ils ont pu mettre sur pied une exposition de photographie qui s'intitule « Je suis là » avec un point d'exclamation et c'est présenté cette expo dans le hall de la Maison de la culture Côte-des-Neiges jusqu'au 10 janvier 2015. C'était quoi l'objectif du projet créatif?
En fait, l'objectif, c'est un projet qui s'inscrivait en continuité avec les services qu'on a fait pendant l'année. Mais l'été nous donne une souplesse ou une occasion d'explorer un peu d'autres choses dans un cadre moins formel que les activités durant l'année. Donc, on avait visé, c'est un groupe qu'on a co-construit, moi et l'éducatrice spécialisée, Jackie Bergeron. On avait visé vraiment le développement de l'identité, de l'estime de soi, de vraiment viser un projet où est-ce que les jeunes pourraient explorer leurs forces et où on travaillerait beaucoup en renforcement positif et en création.
C'était quoi le profil de ces jeunes-là, outre qu'ils étaient âgés entre 5 et 6 ans?
Mais c'est des jeunes qu'on voit pendant toute l'année. Donc, c'est des jeunes dont on préparait l'entrée à l'école en septembre. Et c'est des jeunes qui fréquentent le Centre de pédiatrie sociale de Côte-des-Neiges, donc qui représentent beaucoup une population immigrante de première ou deuxième génération. Donc, des jeunes de toutes sortes d'horizons mélangés et qui amenaient chacun leur personnalité au groupe.
Pourquoi le thème de l'identité?
C'est un thème qui nous est venu spontanément et qu'on avait envie d'explorer depuis longtemps. Entre autres à cause du thème de l'entrée à l'école, justement, qui définit beaucoup de choses pour un enfant. On avait envie de donner une chance à l'enfant de définir son identité justement avant d'entrer à l'école, d'avoir un endroit créatif, plus libre, peut-être moins structuré que l'école pour se définir, pour apprendre à s'exprimer autour de ses pairs. Et pour explorer ce thème-là qui n'est pas évident dans un contexte d'immigration, dans un contexte où il y a des difficultés de développement, en tant qu'enfant...
Et de communiquer peut-être aussi,
oui,
parfois.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Le langage n'est pas toujours facile à développer, donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi des modalités créatives pour aider les jeunes à s'exprimer et à communiquer entre eux.
Concrètement, pendant ces semaines d'exploration créative-là, qu'est-ce que vous avez fait avec les enfants?
C'était un mélange de toutes sortes de choses. C'est ça qui était génial de travailler en équipe aussi. On avait l'éducatrice donc, qui travaillait des choses au niveau du développement global des enfants. Et on avait ma présence et la présence d'une stagiaire en musicothérapie pour travailler tout ce qui était musical. Donc, la musique a été intégrée à différents niveaux, autant de l'écoute de musique, de la danse sur la musique, du mouvement et musique, de la création visuelle et musique. Les jeunes ont eux-mêmes fait de la musique. Donc, toutes sortes de façons d'explorer cette modalité-là et mélanger aussi avec les arts visuels. Donc, c'était vraiment une occasion d'ouvrir les jeunes à la culture et à l'expression à travers toutes sortes d'activités.
J'imagine que pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils manipulaient un instrument.
Oui, sauf ceux qui fréquentaient
déjà
nos groupes,
effectivement. Oui, c'est vrai, il y a le garage à musique aussi, puis
oui,
tout ça.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est sûr que moi, j'essaie d'avoir une présence le plus possible dans les groupes. Donc, c'est ça la chance que donne le Centre de pédiatrie sociale à Côte-des-Neiges et ailleurs aussi, c'est qu'on peut exposer les enfants à plein de choses, à l'éveil musical dès un très, très jeune âge. Et par là, on fait de la stimulation. Donc, il y en a plusieurs d'entre eux qui avaient déjà eu la chance d'être exposés à ça avant.
Qu'est-ce que vous avez pu observer, en fait, les effets, les bénéfices de ce travail-là auprès des enfants?
Bien, c'est ça. Le groupe s'est terminé par une exposition. Donc, oui. C'est en allant voir cette exposition-là, je pense que les résultats sont assez frappants quand on a terminé ça par une exposition de photos. Et à travers ces photos-là, c'est sûr que chacun a une expérience différente, mais moi, quand je vois ces photos-là, je vois la persévérance de chaque enfant qui a mené à terme un projet créatif. Je vois la patience de certains enfants pour qui c'était difficile de persévérer. Je vois le respect qu'ils ont développé chacun un vers l'autre, l'écoute, la confiance en eux aussi, qu'ils sont capables de faire quelque chose de significatif, de positif, et qu'ils sont capables de se reconnaître à travers ça et de reconnaître leurs forces.
Et cette meilleure capacité à s'exprimer aussi, parce que c'est important pour des petits qui débutent l'école, j'imagine?
Oui, c'est extrêmement important, mais je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir s'exprimer. On est des aides sociaux. Puis le thème de l'identité rejoint ça aussi. L'identité, c'est extrêmement social aussi. C'est défini par comment on interagit avec les autres et comment les autres nous perçoivent. Donc, c'était leur donner l'occasion de s'exprimer. Puis c'est des jeunes qui ont des difficultés de développement, veut pas, et c'est de leur donner l'occasion de s'exprimer à l'extérieur de ces difficultés-là aussi.
Et ce qui est assez génial, c'est que l'expo, c'est très concret. Mm-hmm. Les enfants, ben en fait, leurs frères et sœurs peuvent y aller, les autres enfants, leurs amis, leurs petits amis à l'école, les parents également peuvent voir vraiment l'évolution et toute la contribution qu'ils ont pu amener à travers ces différentes semaines-là. Vous qui êtes musicienne, on l'a appris par le docteur Julien, ça change quoi l'art dans la vie des enfants en difficulté?
Je pense que c'est toute une ouverture que ça leur apporte. Le docteur Julien parlait de rêve tantôt et d'amener les enfants à mener à bien leurs rêves. S'ils ne savent pas ce qui est possible dans la vie, les enfants ils ont des rêves plus limités. Donc, l'accès à l'art, je trouve que ça leur ouvre tellement de possibilités et ça, en même temps, ça le démocratise. Des projets comme on a fait, c'est que ça leur donne accès à ça beaucoup plus facilement qu'on penserait. Mais il faut juste prendre le temps de faire de l'art et de leur ouvrir ça. Et le projet, dans le fond, on est à la Maison de la culture, mais on est dans l'entrée de la Maison de la culture. Donc, ça symbolise ça aussi. C'est leur entrée à la culture, c'est leur entrée à l'école à travers ce geste créatif-là qu'on a fait.
C'est très beau. Et bien sûr, à la maison, personne ne peut voir Sandrine pendant qu'elle parle, mais elle a un énorme sourire. on la voit revoir tous ces enfants-là qui ont participé à Je suis là. Je vous rappelle, c'est à la Maison de la culture Côte des Neiges jusqu'au 10 janvier 2015. Vous serez là à la Guignolée.
Samedi le 13.
Oui. Sandrine Zeiderhoff, musicothérapeute à la Fondation du Dr Julien. Merci, ça a été un plaisir de vous parler, d'en apprendre davantage sur votre travail aujourd'hui. Et puis, je vous rappelle, guignolet.drjulien.org, vous pourrez découvrir toutes les façons de donner, je vous le rappelle, en ligne. Vous pouvez composer le 1-855-DR-JULIEN également, texter le Dr Julien TELUS, doublera votre don. Et aussi en personne, c'est toujours chouette d'aller saluer tous les gens qui travaillent très, très fort pour le bien-être et la santé de nos enfants. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain. Bye-bye.